On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Bernard vit à Auroville en Inde. Il a créé un système de régénération des sols fondé exclusivement sur le recyclage de la biomasse cultivée sur place. Avec sa femme Tipika, il accueille des groupes pour partager leur expérience et leur savoir. Carbone Zéro vous emmène à la rencontre de cet Aurovillien. Salut Bernard, avant de parler du Pebble Garden, présente-moi en quelques mots Auroville, le lieu où tu as choisi d'habiter.
C'est assez difficile à définir quelque chose qui nous dépasse un peu. Parce qu'après tout, quand on a tout compris, finalement, si on doit s'exprimer, c'est pas si facile parce que c'est une question de foi, c'est une question de ce que tu sens. Moi, je viens de la de 68, tu comprends? En 68, on avait un espoir. Il y avait un espoir pour changer le monde. Voilà. Un peu naïf, mais bon, c'était là. Et puis finalement, on a vu que le monde n'a pas changé. Et juste à ce moment-là, j'ai découvert l'enseignement de Sri Aurobindo et de la mer. Ça m'a vraiment touché. Et puis, j'ai dit, bon, hein, c'est le futur. Et là, il faut que j'y aille. Puis, je suis venu ici. Donc, Auroville, ici, c'est pour moi, c'est un espoir de la Terre. Mm-hmm. C'est comme ça que je vois. C'est une des initiatives sur la Terre qui se passe en ce moment pour essayer de passer un gap entre le passé et nous lancer vers le futur. C'est ça que je pense.
Mais tu dis donc c'est un peu l'inspiration de la mer et de Sri Aurobindo, mais oui. Tu les as découverts ici en arrivant en Inde. C'est eux t'ont amené à Auroville ou est-ce que...
Non. J'ai découvert ça à travers l'aventure de la conscience, écrit par Satprem, que j'ai découvert en Belgique, parce que après 68, on était un peu perdus. Parce que, bon, la révolution ne révolutionne rien, après tout. Et donc, il y avait une question qui se pose. Les gens se posent des questions, en fait, fondamentales, un peu plus fondamentales que sauter sur les barricades. Et là, j'ai commencé à lire beaucoup, à m'interroger et tout ça. Et puis, bon, ça avait quand même... il y avait un lien entre ma jeunesse, quand j'étais adolescent, quand on aussi commence à se demander un peu des questions. Et puis bon, bouffe, j'ai tombé là-dessus, et puis c'était ça. Pour moi, c'était ça. Et bon, j'ai fermé ma valise et je suis venu ici. C'est tout.
Mais est-ce qu'il y avait déjà cet appel de la mère? Parce que donc la mère a voulu réaliser cette utopie de créer une ville, une cité où se mettrait en place une unité de conscience. Oui. Est-ce que tu as répondu à un appel ou est-ce que c'était une curiosité pour rencontrer à cette époque l'ashram et la mère?
C'était quelque chose auquel je voulais donner mes énergies. Je voulais participer à cet idéal, si tu veux. Cité, oui, cité, mais ce n'est pas une importance, les cités, c'est surtout ce qu'on veut réaliser dans cette cité qui est important, peut-être une unité humaine, par exemple, tu sais, et un idéal pour que l'humanité soit unifiée, que tout le monde, en fait, on est tous égaux, on a tous des êtres humains sur cette planète qu'on démolit maintenant. Donc, oui, pour moi, c'est l'espoir, en fait. Je trouvais que l'Occident, il n'y avait plus d'espoir. C'était fini pour moi. J'aurais parti de toute façon. J'aurais parti en Amérique du Sud, évidemment. Mais je suis venu ici et puis je suis resté.
Ce qui est marrant, ce que j'observe souvent, c'est que l'homme est par nature paresseux. On aime bien aller vers la facilité. Et quand on arrive ici, donc on est en 68 ou 69 ou 70, donc là, dans le sud de l'Inde, autour d'Auroville, il n'y avait rien. Il y avait un désert. Ouais. C'est pas facile de se dire, bon, allez, je vais m'installer dans un désert, alors qu'on pourrait être dans un endroit beaucoup plus paradisiaque, avec de la montagne. Oui. À l'époque, les gens allaient vers Manali, allaient vers Kathmandu.
Oui, oui. Mais je veux dire, la société occidentale dans la ville, c'est un désert aussi, mais un désert humain, sur le plan humain, c'est assez désertique parfois, et malsain. parfois c'est malsain. Donc, l'aventure, le désert physique, les gens ont toujours aimé grimper les montagnes, descendre dans les caves, faire l'impossible, aller dans le pôle du Nord, au pôle du Sud, ou en Sibérie. C'est pas tellement difficile en fait. La conquête de soi, c'est un peu plus difficile que la conquête de la montagne. Non, je sais pas, c'est difficile, mais on était jeunes, on avait l'énergie quand même de le faire, on l'a fait, c'est tout. Je ne vois pas. Il y a effectivement, il y a des natures qui sont explosives un peu, qui aiment faire, qui aiment la bataille, qui aiment l'aventure en fait. Il y a des natures qui sont différentes. Et moi, j'étais peut-être dans les gens qui sont plus dynamiques, c'est tout.
Comment est-ce qu'on part d'un désert pour reconstruire un paradis tout vert? Aujourd'hui, quand on arrive pour la première fois à Auroville, on est surpris par le chant des oiseaux, par l'ombre des arbres, par le vent dans les feuilles, par des insectes, beaucoup d'insectes, enfin par la vie tout simplement. Ici, il y a la vie. Et quand on sait qu'ici, avant, il n'y avait rien, comment est-ce que de rien, on arrive à recréer un écosystème?
Ben, au début, moi je suis arrivé après 7 ans, en 75, donc l'aventure a commencé en 68 en fait. Et il y avait déjà quelque chose, pas grand-chose, mais il y avait déjà quelque chose. Et au début, donc, c'était par nécessité. Et tu viens dans un désert, tu veux de l'ombre, donc tu plantes un arbre et tu mets un peu d'eau dessus, et puis c'était par nécessité. Autrement, on ne pouvait pas survivre ici. C'est sûr. Et petit à petit, en faisant, parce qu'on ne connaissait rien, en faisant, bon, tu fais des erreurs, tu apprends de tes erreurs, tu fais un pas en avant, tu fais deux pas en avant, et puis petit à petit, tu sais, parfois tu fais un pas en arrière aussi. Et ça avance, et puis ça se construit, c'est tout. C'était par nécessité, et puis après, aussi par une motivation intérieure aussi, il y avait tout cet espoir quand même de créer un nouveau monde, donc un monde qui va vers la vie, parce que le monde allait vers la mort. Hein, maintenant c'est très très visible pour tout le monde, si on ne le voit plus, si on ne le voit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans la tête. Non? Tout le monde peut le voir que le monde va faire un apocalypse. Que nous-mêmes nous avons créé. Donc c'était pour un nouvel élan dans la vie, pour le futur. Ouais.
Ce que j'ai l'impression quand j'écoute les Auroviliens ou quand je vois ce qui s'est passé ici, c'est pas tellement les connaissances apportées par les gens qui ont permis de recréer une ville, un écosystème, mais c'est plus l'expérience.
C'est l'expérience pratique. Le futur, il appartient aux amateurs. Pas aux professionnels. Les professionnels ont démoli la terre. Ils ont tout foutu en l'air, en fait. C'est les professionnels qui font erreur sur erreur sans vouloir le reconnaître. Donc le futur, c'est pour les amateurs.
Donc c'est vraiment l'expérience ici qui a permis à Auroville de développer, où on a pu donner à chacun la possibilité de tenter d'incarner son expérience.
Il y a un autre truc qui est très important, c'est la liberté. Les gens avaient une grosse liberté. Et donc de faire des expériences. Et ça, c'est évidemment encore une leçon qui est valable ici à Auroville, parce que dans le monde à l'extérieur, en France, en Europe, on n'a plus de liberté. Et en plus de plus, cette liberté est comment dire, enfermée dans des cadenas, dans des cages en fer. On ne peut plus bouger, en fait. On peut consommer. S'amuser le dimanche ou le week-end et puis travailler quoi. Et il n'y a plus de liberté, il faut travailler pour gagner son pain si on trouve un boulot. Mais il n'y a plus la liberté de s'exprimer, de faire quelque chose. Tu sais, plein de gens qui sont venus ici, ils étaient. Qu'est-ce qu'ils étaient? Peut-être ils étaient médecins ou peut-être ils étaient techniciens. Peut-être ils étaient électroniciens. Ils viennent ici, ils creusent des trous, ils plantent des arbres. Tu sais, ils marchent pieds nus, ils sont dans la cachex, ils marchent dans les champs. Et parce qu'il y avait autre chose en eux à exprimer. Ils ont eu la liberté de faire ce que leur âme profonde voulait faire. Et c'était ça une leçon. Si on donne plus de liberté aux gens, tu vas voir, le monde va changer. Ouais.
C'est un peu l'expérience d'Auroville aussi, où il y a cette, donc on parle de lieux où bien sûr est pris en compte toute la dimension écologique, environnementale, mais il y a aussi ce côté spirituel qui a été peut-être impulsé par la mer et par Sri Aurobindo. Est-ce que tout au long de l'évolution d'Auroville, on a eu ce côté spirituel? Est-ce que la mer est présente encore aujourd'hui? Est-ce qu'on a senti son influence dans l'évolution d'Auroville?
Oui et non, c'est une question assez difficile à répondre. Parce qu'au début, c'était plutôt, comment je voulais dire, c'était comme un truc plus extérieur, plus léger, quoi. Parce que mer était là, on parle de la mer avant la soupe et après la soupe. Maintenant, c'est un peu différent, tu vois. Ça devient un peu plus concret, en fait, plus profond. Parce que elle n'est plus là, quoi. Elle est déjà moins là. Après son départ en 73, en fait, pendant 10 ans, elle était encore un peu là. Tu sais, les gens l'avaient connue, rencontrée, mais maintenant, c'est oublié. Ça doit être un peu plus profond maintenant. Et c'est bien, en fait, ce qui se passe, parce que les gens ont toujours tendance de tomber dans une formulation extérieure, tu comprends? Sans profondeur. Et c'est très facile de tomber là-dedans. Physiquement, c'est la terre ici appartient à Auroville et je me sens lié à Auroville. C'est ma nature qui est un peu asociale peut-être, mais c'est tout. Autrement, moi je me sens lié avec l'idéal d'Auroville, mais vraiment.
Et donc tu as choisi le Pebble Garden, c'est quoi? C'est un projet que tu as créé de toutes pièces ou c'était quoi? Alors, quelle était l'idée?
L'idée, la terre ici était disponible, il n'y avait rien, elle était en train de se dégrader à une vitesse incroyable, il y avait l'érosion terrible, des canyons de plusieurs mètres de profondeur et tout. Et puis bon, c'était un terrain d'Auroville, un terrain qui voulait être remis, qui demandait en fait d'être remis en valeur. Donc on a commencé à travailler.
Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans le micro on voit pas forcément, mais quand on est là, ben on voit plein de choses. Tu as réussi à recréer encore une fois un écosystème en partant de rien. Donc comment est-ce qu'on fait?
Effectivement, ici le terrain il consiste de 60% de cailloux de latérite, de pierre. Et puis donc les gens nous avaient dit il faut amener de la terre parce que rien ne pousse ici de toute façon. Tu as vu la photo que je t'ai montré, il y avait rien ne va pousser, il faut amener de la matière organique, du compost, du fumier, tout ça, et il faut avoir un tracteur qui va tout remuer. Mais on ne voulait pas de ça. En fait, si on amène une bonne terre de quelque part ailleurs pour guérir celui-là, on démolit un autre endroit pour guérir celui-là, ça fait aucun sens. Et puis amener du compost ou de la matière organique des villages n'a pas un sens aussi, parce que le villageois, qu'est-ce qu'il va utiliser sur son terrain? Et s'il n'utilise pas son propre matière organique, il va aussi dégrader son propre terrain. Alors, ce n'était pas une solution. Et on avait déjà un peu d'expérience quand même travaillé dans la terre. Il y a toujours, dans la nature, il y a toujours... La nature veut être couverte. Même dans le Kalahari désert, quand il pleut un peu, c'est plein de fleurs. Enfin, il y a beaucoup de fleurs que nous cultivons qui viennent en fait du Kalahari désert. Mais ici aussi, donc, on a trouvé une plante qui pousse dans un désert, quelque part dans un autre endroit sur la planète. Et on a utilisé cette plante pour démarrer un cycle. Donc, on avait les graines, on a juste jeté les graines par terre. Et cette plante avait la capacité donc de pousser dans la condition ici telle qu'elle. Elle a commencé à pousser, prendre des feuilles, prendre des branches, et puis finalement couvrir le sol. Et une fois que donc il y a des feuilles et tout ça qui apparaissent, il y a des gens qui aiment manger ça, comme les termites et les broyeurs, les insectes broyeurs et tout ça, et les oiseaux qui viennent se pencher dessus. Et qui font tomber des graines par terre, et puis il y a un processus. Donc on a vu on a vu qu'une fois qu'il y a une biomasse qui s'étale sur le terrain, il y a les termites presque automatiquement qui viennent. On a vu le travail des termites, comment ils font. Et puis on a dit, ben, c'est intéressant, la matière, la façon dont ils travaillent. Et on a fait une imitation de ce travail des termites. Et donc, quand les feuilles tombent par terre, les termites vont venir. Mais comme ils travaillent à l'ombre, ils sont obligés de couvrir ces feuilles et de les écraser et de broyer à l'ombre. Donc, entre les cailloux, ils entrent, ils prennent un petit bout de terre dans leur bouche, donc elle est mélangée avec la salive qui contient des enzymes, et ils le collent au-dessus de la feuille. Et comme ça, petit à petit, il couvre toute une feuille ou toute une branche. En bas, il commence à broyer la feuille. Et ça fait un microclimat, il y a des fungus qui apparaissent, il y a plein d'autres gens de la nature qui vont venir. Et donc, on a fait la même chose. On a fait pousser c'était des acacias, on l'a fait pousser, on l'a coupé en morceaux, on l'a mis par terre. On allait chercher la terre des termites, que le termite avait donc produit. On l'a couvert la feuille avec cette terre. Et en fait, on a imité d'une façon de construire un lit d'environ 20 cm d'épaisseur en mettant plusieurs couches de feuilles de terre l'un au-dessus de l'autre. Et puis finalement, on a mis des graines là-dessus et ça a poussé.
Je file loin de la ville. C'est pas que c'est plus facile ou moins débile. C'est que la vie tient à un fil et que ça défile. Je me fais Manille ou les Antilles. Oui, je trace vers d'autres espaces. C'est que ma face est dans l'impasse d'un monde salace où les gens se lassent de n'être efficaces que pour leur carcasse. Oui, avec les gens. Oui, dans les sentiments. Non, pas sédentaire, non, pas dans les affaires, oui, pour l'indépendance, oui, pour la non-violence, non, jamais dans la misère, et non, ne pas posséder de terre, oui, pour un autre mode de vie, oui, je prends le bon vent si je prends mon temps. C'est que j'aime les gens bien plus que l'argent. Et qu'à chaque instant, à chaque moment, même si tout se vend, tout ce que je prends, je le rends. Oui, je prends la route et coûte que coûte. Faut pas que je m'en croûte, y'a aucun doute. C'est pas dans le shoot, dans la déroute. C'est sur les routes que la vie m'en fout. La 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 la.
C'est en repartant vraiment de l'observation. C'est observer la nature avant tout. Et tu as là, c'est en fait tes maîtres sont dans l'observation de ce que tu vois autour de toi.
Oui, parce que moi je savais avant que l'homme apparaisse sur la terre, hein, tout était là. Tout était là. La terre c'était un paradis. Je savais que c'était possible en fait. Je savais que il y avait des poissons dans la rivière, dans les mers, dans les océans, et c'était bien populé quoi. Dans la terre aussi, parce que le biomasse dans la terre, c'est connu, c'est reconnu que dans 30 cm de terre, il y a plus de biomasse que tout qui est au-dessus. Même dans les océans, dans les 30 cm d'eau, il y a plus de biomasse que dans tout le reste de profondeur. C'est assez incroyable.
Et quand tu observes ce qui se passe aujourd'hui, quand tu observes ce que l'homme a fait sur les dernières dizaines d'années, qu'est-ce que tu vois?
Ben, je vois deux choses. Maintenant, je pense que la Terre commence à donner des signes que ça a été un peu loin, même trop loin. Et donc, les signes sont de deux facettes, je veux dire. Il y a les signes négatifs. Ce qui se passe avec le changement fabuleux, le changement de climat, les explosions de volcans qui se multiplient de plus en plus, Les tremblements de terre qui se multiplient de plus en plus, les extrêmes du climat, c'est vrai. La terre qui s'effondre partout. Il y a des signes, il y a des signes. Et le signe positif, que la terre-mère, elle appelle les jeunes. Quittez vos prisons dans la ville, quittez vos prisons de béton et va dans la nature. Donc, il n'y a plus partout, même ici en Inde, des gens qui ont un boulot extraordinaire, qui gagnent beaucoup d'argent dans l'électronique et tout ça, qui tout d'un coup, quand ils deviennent environ dans leur trentaine, tu sais, ils se sentent une vie vide qui n'a aucun sens, et puis ils quittent et ils retournent à la nature. Ils cherchent un petit bout de terrain pour... Oui.
Tu as dit ce mot que j'aime beaucoup, le mot sens. Aujourd'hui, c'est peut-être ça, c'est la quête de sens. Quel sens donner à sa vie ? Pendant longtemps, on a basé ce sens sur une croissance matérielle. Hein. On pensait que le sens de la vie, c'était de réussir à capitaliser, de développer, hein, d'avoir une maison, une télé, un ordinateur, plus. Voilà, on avait un sens. Et c'est comme si aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas ça, le vrai sens.
Ben non, parce qu'en fait, comme on dit en français, on paie sa vie en la gagnant. Donc il faut travailler pour payer cette dette, pour payer ça, pour faire ça, pour payer les études des enfants. Il faut toujours travailler. Pourquoi ? Non, ça ne va pas. En fait, les gens sont plus heureux dans la simplicité, je pense. Et quand la vie devient trop compliquée, trop complexité dans la tête, finalement, c'est tout dans la tête, mais il n'y a pas la vie simple, tu sais, la vie d'une fleur simple. La tomate, elle pousse dans son endroit naturel, elle a poussé tout naturellement, sans aucune supervision de aucun contremaître. Hein? L'aubergine aussi, on n'a pas l'inventé quand même, elle était là.
Tu dis la simplicité, c'est peut-être ça finalement qui nous manque aujourd'hui. Ça me fait penser au message qu'on entend de plus en plus dans le milieu de l'alternatif. Je pense à Pierre Rabhi aussi, qui lui parle de sobriété heureuse.
Ah oui, oui, oui. Quand on lit un peu sur le peuple indigène, j'ai eu l'occasion de lire des rendez-vous, de contre-rendez-vous de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Inde évidemment. Il y a toujours la même chose qui arrive en fait. Ne prends pas plus de ce que tu as besoin de la nature. Tout ce que tu as besoin, tu peux prendre, mais pas plus. Et si tu prends plus, en fait, ça nous amène trop loin, ça fait la vie compliquée. Et si tu veux une vie simple, tu es toujours le meilleur.
Ce que tu disais par rapport au peuple premier, où on retrouve souvent cette philosophie de prendre ce dont tu as besoin, mais pas plus. Et quand on voit ce qui se passe à la planète, sur la surface de la planète, par exemple, si ici, là où on est avant, c'était un désert, c'est parce que quelqu'un s'est dit, bah, tiens, il y a du teck, il y a du bois, je vais le prendre.
Bah oui, c'est ça qui s'est passé. Donc, dans la période coloniale, quand François Martin est venu, il a vu les forêts luxuriantes, il a dit, bon, c'est du bon bois pour construire au Pondichéry. Donc, ils ont coupé à ras le bois, qui était le bois de rose de l'Inde. Il y a une différence de bois de rose de l'Afrique. Ce n'est pas la même, je pense. Il y a le bois de rose de l'Inde et le teck. Et donc, ils ont commencé à construire la ville et ils ont aussi exporté en France.
C'est ce qui est en train de complètement se passer encore aujourd'hui à l'échelle planétaire. On va prendre le pétrole par ici, l'or par là, les diamants par là-bas, les poissons par... Et voilà, et il n'y a plus rien qui est local, tout est complètement international.
Oui, oui, en fait, on est en train de dévaster, de ruiner la planète. On vole tout de la planète. Et puis, bon, on a tous les merdes qui s'entassent dans les endroits, quelque part, qui forment des problèmes aussi, et qui salissent les nappes phréatiques, qui salissent tout. Quoi. Ouais. En fait, l'Europe, c'est une petite colonie des banquiers américains anglo-saxons, en fait. Je n'ai pas trouvé ce que je pense était... Enfin, je ne suis pas resté très longtemps non plus. Je ne peux pas le dire, en fait. Mais au premier vue, c'était comme américanisé. C'est tout ce que je peux dire.
Tu dis, tu parles des banques, c'est quoi une banque ? C'est quoi un banquier ?
Un banquier, c'est un psychopathe. C'est un malsain, c'est... Un subhumain, c'est un gangster, quoi. C'est une combination de gangsters et banques. Ce sont des banksters, c'est des pauvres gens, en fait.
Malgré eux, est-ce qu'ils sont conscients, finalement, de l'impact de la banque et du système monétaire aujourd'hui sur la planète?
Oh, ils s'en foutent complètement. Un psychopathe, ils s'en foutent de ça. Non, non. Et peut-être ils le savent, peut-être ils sont conscients, mais ça ne leur regarde pas.
J'en reviens à Auroville où tu disais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers une quête différente, hein, une quête plus spirituelle ou qui retournent vers la terre. Donc toi, en 40 ans ici, tu as vu passer beaucoup de monde. Auroville est quand même une terre d'accueil avec plein de gens qui expérimentent et d'autres qui viennent voir ce qui s'y passe. Est-ce que tu vois une évolution? Est-ce que tu sens un changement parmi les gens qui viennent en masse ici? Est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a une conscience qui émerge?
Oui. C'est vrai que, comme j'ai dit, je pense que la Terre-Mère, elle appelle ou elle travaille à travers ces gens, ou elle inspire ces gens, si tu veux. Et c'est surtout, avant c'était l'idée, l'écologie, il faut changer, tu sais. C'était, les gens restent où ils étaient, mais ils se penchaient vers l'écologie, vers tout ça. C'est dommage que tout ça disparaisse, que les forêts disparaissent. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, c'est... Je fais quelque chose. Les gens, ils se penchent vers la terre maintenant. Et ils sont plus pratiques. Les gens qui restent dans la ville, ils commencent à faire le jardinage sur les toits, sur le balcon. Il y a tout un approche très différent. C'est plus pratique déjà. Ils mettent déjà la main dedans, quoi. Et les pieds dedans. Non, ça évolue. Oui, c'est bien. C'est très bien. Et des gens, c'est étonnant parfois qu'ils ont des positions assez bien, quoi. Juste quitte. Il laisse tomber comme ça. Ouf. Assez incroyable, assez courageux.
Ouais. Donc c'est ça, l'avenir, l'évolution de la conscience, l'évolution de l'espèce humaine, c'est finalement une régression de l'espèce humaine, c'est retourner à l'essentiel.
Tu sais, pour le singe, le premier être humain qui ne sait plus grimper dans les arbres, il essaye et il tombe, ou il fait plein de choses bizarres, ça doit être... ils doivent penser le singe, regarde ça, ils sont tombés en arrière. Hein? Ça ne marche plus, ils ne savent plus marcher dans les arbres. Et ils ne savent plus comment bien manger et tout ça, ils font n'importe quoi. Regarde, ils doivent travailler. Et nous, on s'amuse dans les arbres et là, ils doivent travailler et peiner. Et en fait, c'est comme ça que les gens, ils voient la jeunesse comme perdue, quoi. Ils laissent tomber leur position, ils sont perdus. Mais c'est bien, il faut être perdu du désastre. Il faut mieux se perdre d'un désastre et regagner quelque chose de valable. Ouais.
Quelqu'un me disait, je trouve ça assez juste, l'homme aujourd'hui est en train de faire beaucoup de dégâts au niveau des espèces animales et végétales sur la Terre. Il est peut-être même en train d'arriver à l'extinction de sa propre espèce, de l'homme. Hein. Mais c'est pas grave, parce que finalement on est mortel, on fait partie du vivant, du monde vivant. De toute façon, un jour on finira dans la Terre. Elle qui nous a nourris, on lui appartient finalement. Mais dans quelques milliers d'années, dans quelques millions d'années, la Terre, elle, sera toujours là. Peut-être pas l'homme, mais autre chose se mettra en place.
Bah oui, effectivement. On est un produit de la Terre. Si la Terre trouve qu'on est trop encombrant, elle va changer. Elle va dire, oh, les hommes, c'était mal. J'ai inventé quelque chose qui ne marchait pas, donc je le retire et je mets autre chose. C'est possible, hein? C'est possible. Pour la Terre, en fait, ce qui se passe, elle donne un signe. Elle donne un signe qu'elle souffre, en fait. Mais derrière elle, elle a toutes les possibilités. Elle a toutes les possibilités. Elle peut faire un bouleversement et amener d'autres espèces. Elle peut faire ça. Tout ça, c'est bien à dire, mais c'est l'effort maintenant qui compte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait?
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone Zéro,
une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
Si vous vous souhaitez réécouter cette émission ou en découvrir d'autres, rendez-vous sur le site décoter.tv. Yeah.